Les voix du livre. Une émission proposée par Claire Garand, biographe chez memorialiste.fr, et Arthur Caillot, l'ado accro au livre, en partenariat avec la librairie Le Cyprès Jean de la Lune. Vous êtes bien sur BAC FM et nous sommes en studio. Bonjour Arthur.
Bonjour Claire.
Eh bien, c'est bientôt Noël. Non, ce n'est pas un scoop, je sais. Mais voilà qui met enfin un peu de bonheur et d'atmosphère festive dans nos vies. Nous en avions bien besoin, même si cet éloignement obligatoire nous aura rappelé que l'essentiel tient dans le partage de ce que nous aimons avec les gens que nous aimons. Et nous, dans les voies du livre, ce que nous aimons, eh bien, ce sont les livres. Et nous avons très envie de les partager avec vous. Alors, au programme aujourd'hui, des suggestions de lecture dans des genres très différents, young adult, essais, et un inclassable aussi, oui, parfois la case n'existe pas. Et en deuxième partie, une interview de Michel Gazier, auteur notamment du très émouvant Le Nom du Père, aux éditions du Chemin de Fer, et en septembre dernier, de Les Passantes, publié par le Mercure de France. Donc de très beaux moments en perspective, et nous allons commencer par la littérature jeunesse qui nous réserve ce mois-ci des romans mutants et assez engagés qui invitent le lecteur à s'interroger sur la différence ou sur l'environnement.
Exactement. Et bah du coup, comme vous l'avez dit juste avant, Noël approche et du coup avec lui ses cadeaux et il faut bien faire des cadeaux à Noël et c'est toujours compliqué de savoir quoi offrir. Donc quoi de mieux qu'un bon roman ?
Exactement, ça fait toujours plaisir.
Exactement. Justement, du coup, j'ai sélectionné pour vous mes deux derniers coups de cœur qui devraient à coup sûr vous plaire. D'abord, Le Cri du Homard qui sensibilise à l'écologie d'une façon originale. Et ensuite, Bépocalypse qui est, comme vous l'aurez compris par son titre, un roman post-apocalyptique. Mais rassurez-vous, ça ne parle pas de maladie.
C'est déjà bien. Oui. Le Cri du Homard, voilà un beau programme.
Exactement, c'est le premier roman de la nouvelle collection des éditions Glénat nommée On est prêt. C'est une collection explosive en partenariat avec le mouvement du même nom qui défend de nombreuses causes écologistes. Cette collection a été créée pour sensibiliser les adolescents aux combats climatiques et environnementaux, mais aussi pour soutenir et encourager les acteurs de ce mouvement.
C'est une l'éditeur, bonne idée.
L'éditeur justement prévoit de sortir des récits inspirants qui nous feront ouvrir les yeux sur ce que l'on peut faire pour aider notre belle planète bleue.
Oui, et puis c'est fait de manière, c'est pas uniquement des idées, c'est vraiment des vraies histoires.
C'est des vraies histoires et c'est ça qui est bien parce que c'est pas un récit qui va nous dire il faut faire ça, il faut faire ça, mais c'est une histoire qui va nous faire comprendre, nous faire prendre conscience qu'il faut faire ça et ça. Et du coup, bon, maintenant parlons de plus de ce roman en détail. Alors Aurore, c'est une jeune fille qui habite à Montabour, un village perdu du Cotentin. Elle s'y ennuie fortement et aimerait bien partir de là quand elle aura son bac parce que y a rien à faire, quoi. Du coup, en attendant, elle est bloquée à la charcuterie familiale pendant tout l'été avec son père et ça l'ennuie fortement.
C'est pas terrible.
Mais un jour, on va lui proposer de faire un stage dans la conserverie du village voisin. Elle n'hésite pas une seconde et elle fonce, ça lui fera un peu d'aventure.
Surtout qu'en plus, le village voisin,
c'est
l'ennemi.
Le village ennemi, exactement.
Ah oui. Ça sent tellement le vrai, l'authentique. Oui. J'ai beaucoup aimé cette idée.
Et du coup, la conserverie a le projet de refaire la côte pour créer un élevage extensif de homards qui serait en plus créateur d'emplois.
L'idéal, a priori.
Mais justement, Aurore, elle ne voit que le bon côté des choses. Mais est-ce que ses copines, qui sont assez écologistes, réussiront à temps de lui montrer le véritable enjeu environnemental qui se cache derrière ce projet ? C'est une course contre la montre qui est lancée pendant tout le roman, quoi.
Oui, donc c'est vraiment, on est sur du suspense.
Sur du suspense et en même temps sur quand est-ce qu'elle va comprendre, quoi.
Le suspense, en fait, ça tient à la prise de conscience de l'héroïne.
Exactement.
Et je trouve que c'est très original, cette idée de placer le suspense sur la prise de conscience. Parce que c'est pas tout à fait la même chose que une poursuite ou quelque chose. Ouais. Là, c'est vraiment quand? Mais quand est-ce qu'elle va s'en rendre compte?
Mais oui, c'est ça. Et du coup, c'est un gros coup de cœur pour ce roman. Parce que, en plus de sensibiliser à l'écologie, le thème est assez original. Parce que, est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un livre qui parle d'un élevage extensif de homards?
C'est pas tous les jours.
Effectivement. Du coup, un grand bravo à l'auteur, Guillaume Nile, qui est vraiment super gentil en plus de ça.
Ce qui ne gâte rien.
Et les personnages sont hyper attachants. Je me suis beaucoup attaché à Aurore, à ses amis. Et l'histoire nous emporte pendant toute notre lecture et on le dévore d'un coup puisque le suspense est insoutenable.
Donc voilà, il y a un bon roman de suspense à lire.
À mettre sous le sapin de Noël.
Oui. Allez, à lire par tout le monde. C'est
exactement.
Pas uniquement
oui,
pour les
c'est,
ados.
C'est pas pour les ados, c'est pour tout le monde. Vraiment. Du coup, vraiment un bon roman à mettre sous le sapin de Noël. Achetez-le pour vos enfants, pour vos adolescents, pour vos parents.
Exactement. Mm-hmm.
Alors enfin, le deuxième roman, c'est le dernier aussi, à mettre sous le sapin, c'est Bépocalypse, le nouveau roman de Ariel Holz.
Alors là, on change complètement d'univers. Hein.
Alors oui, vous allez me dire, c'est un roman apocalyptique, on veut pas de ça en ce moment, nous, on préfère les téléfilms de Noël, tu veux nous rendre dépressifs ou quoi. Mais rassurez-vous, ou pas, ça ne parle pas de maladie. En effet, on est quelques années dans le futur. Une météorite est tombée sur la Terre et a déclenché des cataclysmes qui ont presque annihilé toute l'humanité. Bon, c'est pas joyeux.
Non, mais ça, après, ça va mieux, après
exactement.
Ça va mieux.
Alors du coup, Bépocalypse, c'est l'histoire de Sam qui vit à Concordia, où les derniers humains sont réunis pour survivre. La ville est séparée en de nombreux quartiers, qui sont condamnés ou non. Dans les quartiers condamnés, errent des mutants, des humains ayant développé des anomalies suite aux radiations des centrales nucléaires qui ont explosé à cause des météorites. Du coup, ces mutants, c'est un peu comme des zombies, et ils sont dans des quartiers vraiment isolés pour pas contaminer les autres. Et du coup, dans le reste de la ville, les habitants tentent comme ils peuvent de survivre en cherchant de la nourriture épargnée par les radiations et en apprenant des techniques de combat pour se protéger des animaux mutants.
Oui, parce que
les animaux aussi ont muté.
Tout a muté et les personnages principaux qui vont à l'école se baladent avec toute une panoplie d'armes.
Exactement.
C'est tout à fait naturel d'aller faire ses courses avec une batte.
Mais bien sûr. mais un jour, justement, un quartier condamné depuis presque 8 ans est rouvert. Et parce que les mutants qui sont dedans sont jugés non dangereux. Ce sont des humains qui ont légèrement muté en araignée. Alors, moi.
Légèrement. Très légèrement.
Et Sam est persuadé qu'ils ne sont pas si inoffensifs qu'ils le prétendent. Effectivement, il se passe des choses bizarres là-bas et. Et voilà.
Et inquiétante.
Je ne voudrais pas quoi.
Voilà, non.
Et du coup, est-ce qu'elle a raison de se méfier? Du coup, une lecture marquante. Un roman post-apocalyptique fabuleux. Ma lecture m'a tenu en haleine et j'ai adoré les personnages principaux. L'imagination de l'auteur est foisonnante. Franchement, c'est pas tous les jours qu'on voit des aliens mutants en araignée.
Bon, il y en a, mais bon, si. C'est pas ce qu'il y a de plus courant, non.
Et je suis assez triste d'ailleurs qu'il n'y ait pas de tome 2, car j'aurais bien encore aimé explorer l'univers de ce monde étrange. Et du coup, au final, c'est deux très 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 bons romans que je vous conseille absolument. Et si vous avez beaucoup de livres à offrir, n'hésitez pas à aller voir mes autres chroniques sur mes pages Instagram et Facebook, La Doacro au livre.
Oh bah c'est ce que j'allais dire, zut alors.
Ah bah mince.
Donc merci beaucoup Arthur. Mais je plus sois, en effet, il y a vraiment du choix sur le site, enfin sur les comptes, c'est pas des sites, sur les comptes d'Arthur. Il y a de tout.
Vous serez sûr de trouver votre roman.
Exactement. Mais ce qui est bien sur tes comptes, c'est que il y a vraiment, enfin les chroniques sont claires, on voit tout à fait de quoi il s'agit et à qui on peut les offrir.
Ouais.
Et moi j'y suis allée, hein, je dois le dire, pour mes cadeaux, mais pour moi aussi. Et j'ai découvert quelques petites pépites que je vais me faire un grand plaisir de m'offrir à moi-même aussi, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas se faire plaisir. Voilà, alors ce mois-ci, la librairie Le Cyprès Jean de la Lune sera des nôtres seulement en pensée. Je vais donc vous présenter deux titres qui pourraient tout à fait trouver leur place au pied du sapin. Tout d'abord, L'Inclassable. Bah, je vous l'ai promis, le voici. Le titre est déjà énigmatique. Touiller le miso. Oui, le miso. Vous savez, cette pâte de soja fermentée qui constitue l'une des bases de la cuisine japonaise. Alors, si vous ne connaissez pas, je ne saurais trop vous conseiller d'y goûter. Il y en a de toutes sortes. Mais ce n'est pas de cuisine que parle ce livre, contrairement à ce qu'on pourrait croire à cause de son titre, mais de poésie. Ben oui, même si parfois cuisiner, c'est poétiser. Ce livre, illustré et dessiné par Florent Chavouet, le dessinateur nivernais accro au Japon. Voilà, lui, il est peut-être pas accro au livre comme Arthur, mais accro au Japon. Ce livre présente une série de moments à savourer avec tous nos sens, sous forme de haïku ou de haïkai au pluriel. Enfin, si j'ai bien compris, je ne me risquerai pas à parler une langue que je ne connais pas. Donc, vous y trouvez des lumières, des détails, des vues volontairement disproportionnées, comme Florent Chavouet les affectionne, qui vous attendent entre les pages de cet album, où l'humour de Florent Chavouet, moi j'aime beaucoup son humour, hein, toujours un peu décalé, fait bon ménage avec la poésie. Et c'est assez rare que l'humour fasse bon ménage avec la poésie pour être noté. Le lecteur découvre le quotidien au Japon au travers de l'expérience de Florent Chavouet. Et c'est un plaisir pour les yeux et l'esprit. Vous avez une carte, un plan de table, une échoppe et soudain, paf, tout prend vie. On y est. On sent l'odeur du kaki, le goût de la soupe de miso qui vous coule dans la gorge. Et ça y est, on est au Japon. Et alors, vous allez découvrir tout ce que Florent Chavouet fait avec l'équivalent du petit beurre local, un pain, le lapin, pain, P-A-I-N, le pingouin. Enfin bref, c'est un peu décalé. Mais il faut le voir. Il y a même la vache pain. Oui, il n'y a pas de jeu de mots dans vache pain, mais vous comprendrez si vous lisez le livre pourquoi il réussit à faire une vache avec du pain. Et tout cela, d'une manière, on ne peut plus, japonaise. Alors, moi, j'adore ces bleus, ces reflets, sa manière de restituer les textures, les voilages. J'ai un faible pour sa technique dans ce domaine. Il vous montre la peau d'un fruit texturé et à la fois complètement naïve. Mais comment fait-il ?
Ça me rappelle mystère. Beaucoup Francis Ponge. Je ne sais pas si vous connaissez.
Ah bah si, bien sûr. Mm-hmm. Le cajot,
ça me rappelle beaucoup ça.
Alors, disons que Ponge, c'est avec des mots, mm-hmm. tout à fait. Alors que Florent Chavouet, c'est avec du dessin.
D'accord.
Et c'est vrai qu'il y a ce même décalage, effectivement. Ce même
cette
humour.
Cette capacité à décrire un objet dans sa forme qu'on n'aurait pas pensé à décrire, quoi.
Exactement. Mm. Et surtout, sous un angle tout à fait inattendu. Alors là, ce ne sont pas des mots valises, mais des dessins valises. Finalement, on s'en rapproche, mais pas seulement. Hein. Il n'y a pas que ça. En tout cas, c'est vraiment de l'art. Donc, si vous voulez offrir un voyage dans un fauteuil à l'autre bout de la planète, surtout en ce moment où nos déplacements sont un petit peu réduits, ou vous l'offrir à vous-même d'ailleurs, c'est le cadeau idéal. Une très très belle reliure, des pages qui se déplient, un papier vraiment avec un beau grammage, avec une belle main. Et donc, c'est Touiller le miso aux éditions Piquier et ça transporte. Voilà, alors ça, c'était ma première suggestion pour tout le monde, tous les gens qui ont de l'humour. Et après, le Japon, alors un autre tour du monde, mais dans un genre totalement différent, celui de l'essai. Donc, un petit peu moins léger, le Brésil, le Venezuela, oui, je commence par les destinations les plus fun, la Russie, la Hongrie. Tous les pays où se sont développés ces dernières années des régimes ou des mouvements politiques analysés comme populistes, oui, on a changé de registre, par l'historien et essayiste Pierre Rosanvallon, professeur honoraire au Collège de France, dans son dernier livre « Le siècle du populisme » publié aux éditions du Seuil. Alors, conspué par les uns ou revendiqué par les autres, cette étiquette envahit les éditoriaux et les discours politiques, mais qu'est-ce que le populisme ? Quelle réalité recouvre-t-il ? C'est ce qu'étudie Pierre Rosanvallon dans cet essai limpide, ça est ramassé à peine 280 pages, très didactique, découpé en petits chapitres faciles à lire. L'ouvrage se présente en trois parties. La première définit les différentes composantes du concept, qui est quand même un peu parfois fourre-tout. Et contrairement à beaucoup, Pierre Rosanvallon n'a pas du tout peur du taureau, il le prend par les cornes, il le dissèque, il appelle ça anatomie, la première partie. La deuxième partie, il y va, et c'est d'ailleurs passionnant. La deuxième partie développe l'histoire du populisme, pas du mot, mais de la notion elle-même. C'est extrêmement instructif, on apprend que le Second Empire était un populisme. Ce qui effectivement apparaît assez logique à la lecture, mais j'avoue que je n'y avais jamais pensé sous cet angle. Et enfin, la troisième partie, particulièrement stimulante, s'intitule « Critique ». Elle est pas mal du tout, celle-là aussi. En se basant sur les éléments mis au jour dans la première partie, donc Rosanvallon travaille les limites de la mise en œuvre du concept, mais aussi ses failles, et c'est là que ça devient vraiment instructif, les avantages et les intérêts que peut présenter le populisme pour obliger la démocratie à se redéfinir elle-même et à se fortifier, sauf bien sûr si elle devient démocrature et succombe. Mais c'est une autre question. Donc de belles réflexions et des discussions passionnantes en perspective. Voilà pourquoi c'est le livre idéal à mettre sous le sapin pour s'interroger sur le monde et animer la soirée de Noël en famille, parce qu'on peut discuter beaucoup à partir de ce livre. Mais en attendant, profitons de l'instant présent avec le choix musical de Michel Gazier. Nous écoutons Alain Souchon, Intérêt en pente, extrait de son album Am 50s.
Un terrain en pente, au-dessus de la ville, des vieux matelas, des plantes et des bidons d'huile. Je monte là-haut m'asseoir, quand la ville s'allume, je regarde le soir et je fume. Je vois le cours de danse à côté de la piscine et des dames qui pensent dans leur cuisine. Elles pensent aux actrices dans les halls monumentaux, les brassées d'iris et les beaux manteaux. Moi et mon ennui, on va tout de là-haut. On voit tout de là-haut. De mon belvédère, je regarde la France avec ses lumières, ses souffrances. Je vois au bord de l'heure une usine qu'on vend et des hommes qui pleurent devant. Plus loin, les Anglis et Rouen derrière. Et le fleuve qui glisse dans la mer. Moi et mon ennui, on va tout de là-haut. On attend la nuit, on voit tout de là-haut. Au bord du canal, il y a des campeurs, des gens qui leur parlent et qu'ont peur. Un monsieur de dos à la découverte de l'Eldorado dans une poubelle verte. Fanion Bannière, plaisir et souffrance entre les barrières. Passe le Tour de France. La gloire a des chemins durs et abrupts. Pour monter le machin, faut prendre des trucs. Moi et mon ennui, on va tout de là-haut. On attend la nuit, on voit tout de là-haut. Un terrain en pente, au-dessus de la ville, des vieux matelas, des plantes et des bidons d'huile. Je monte là-haut m'asseoir, quand la ville s'allume, je regarde le soir et je fume.
Alors c'était Un terrain en pente d'Alain Souchon. Extrait de l'album Am 50s, vous êtes bien sur BAC FM et nous avons le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Michel Gazier dans Les Voix du Livre. Bonjour Michel Gazier.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes écrivain, vous êtes l'auteur de Les Passantes qui est sorti il y a quelques mois au Mercure de France, mais aussi de Le Nom du Père, publié il y a quelques années aux éditions du Chemin de Fer, et qui m'a particulièrement émue et dont on reparlera. Mais vous êtes aussi éditrice. Vous avez fondé les éditions Débuscla avec Marie-Claude Char. Et vous avez aussi été critique littéraire, notamment pour Libération ou Télérama.
Voilà, un quart de siècle.
Oui, c'est pas rien. Et vous êtes également traductrice de l'espagnol.
Oui.
Et c'est d'ailleurs, vous me l'avez expliqué, la traduction qui vous a amené à l'écriture.
Oui, parce que la traduction, c'était un moyen de, comment dire, de mobiliser la langue. J'ai fait des études d'espagnol, j'ai enseigné l'espagnol pendant plusieurs années. Et c'est vrai que, bon, quand on est parti dans une autre langue, l'imaginaire, on rêve dans l'autre langue. Et récupérer le français était pour moi quelque chose d'extrêmement important, et je crois que je suis arrivée à le faire par l'intermédiaire de la traduction. Et qu'une fois qu'on a les outils, on a envie de les utiliser pour faire autre chose.
Et pour faire parler votre propre voix plutôt que de traduire celle de quelqu'un d'autre.
Par exemple, oui.
Est-ce que vous avez beaucoup contribué à faire connaître la littérature espagnole, enfin les auteurs hispanophones en tout cas en France?
Oui, parce que dans les années 70, la littérature espagnole était très très absente. Il y avait très peu d'auteurs espagnols traduits. On traduisait beaucoup de latino-américains en disant que c'était formidable parce que les latino-américains écrivaient dans la difficulté et que leurs textes étaient magnifiques parce que eux, ils vivaient dans des dictatures. Et on disait en Espagne, parallèlement, il peut pas y avoir de littérature parce qu'il y a une dictature. Donc voilà, c'était la quadrature du cercle. Et j'ai mis beaucoup de temps à trouver un éditeur qui s'intéresse... le premier auteur que j'ai traduit en français, qui était Manuel Vázquez Montalbán, qui après a eu un succès très important en France et dans le monde entier du reste. Donc voilà, il fallait simplement être un peu têtu. J'ai mis 7 ans à arriver à le faire publier.
Ah oui, belle détermination.
Ouais.
Le résultat en valait la peine.
Oui.
Vos personnages aussi sont très déterminés. Je pense aux Passantes, donc qui est un roman très pudique aussi, très émouvant, qui raconte le quotidien d'un cabinet d'infirmières, mais avec des personnalités fortes, avec ses tracas, ses difficultés, ses secrets aussi, et surtout un grand, celui d'une patiente particulière sur la vie de laquelle vous levez peu à peu le voile.
Oui.
Alors, dans ce roman, vous menez de front plusieurs récits et destins. Pourquoi ce choix narratif?
Parce que je suis fascinée depuis longtemps par une certaine forme de quête de vérité. Je suis toujours très étonnée quand chacun raconte, soit dans une famille, soit dans un groupe d'amis, qu'on se rappelle quelque chose qu'on a vécu ensemble. Chacun le raconte d'une manière pratiquement, pas opposée, mais presque parfois opposée à celle de l'autre, alors qu'on a vécu le même événement.
Ah, c'est vrai.
Et il me semble que une vérité est possible au carrefour. Je crois beaucoup au carrefour, moi, depuis toujours. Carrefour des langues et carrefour aussi des rencontres et carrefour des voix. Et il me semble qu'une construction dans le carrefour des voix arrive à donner toutes les dimensions. Si vous voulez, une voix, c'est une photographie. Un carrefour de voix, c'est une sculpture. Voilà. Mmh. On a le relief. Et cette mise en relief, elle vient de cette confrontation, de ces croisements. Donc voilà, ce cabinet infirmier, ces femmes avec leur vie, chacune la leur, avec des âges différents, des expériences différentes, et puis cette patiente qui est au milieu, qui est désagréable, puisque c'est pas un personnage sympathique, et qui va poser des problèmes d'interprétation, qui va faire réagir chacun. Peut-être parce que justement elle est antipathique, et la deuxième chose, c'est que l'une des femmes du cabinet a l'air de la reconnaître, croit la reconnaître, mais sous une identité différente.
Et justement, le fait qu'elles aient des personnalités fortes permet de donner aux différentes facettes de la vérité des caractéristiques spécifiques. J'imagine que c'est l'une des raisons pour lesquelles vous avez choisi des caractères aussi forts et aussi variés. Ça permet de varier la vérité aussi.
Oui, absolument. Et puis cette réaction, ces gens qui travaillent dans un même sens, ils font tous, ils ont tous les mêmes passions, etc. Et qui vivent chacun avec, on vit, quoi qu'on vive, on le vit avec sa vie. Et donc c'est la vie qu'on a qui va déterminer beaucoup des réactions qu'on va avoir. Et il me semblait justement que les vies, qu'il y ait des âges différents, qu'il y ait des destins différents, etc., pouvait permettre de donner des éclairages réels, plus forts, plus, en tout cas plus subtils peut-être aussi, sur la personnalité de cette femme qui est à la fois problématique, pathétique, assez méchante et infiniment triste.
Oui, et on apprend finalement le fin mot de l'histoire qu'à la fin,
oui.
Dans une scène d'ailleurs assez forte, hein, que je ne révélerai bien évidemment pas, mais c'est cette construction aussi, parce que c'est vraiment un roman très construit, on sent qu'il y a une réelle structure, c'est une structure qui vous est apparue comme évidente, ou bien c'est quelque chose qui vous a demandé un petit peu de réflexion, de tâtonnement, avant de parvenir à cette espèce de montée en puissance progressive jusqu'à l'acmé final.
Écoutez, je crois au roman. Contrairement à beaucoup de choses qui s'écrivent actuellement, on écrit beaucoup de choses de soi, on se confesse beaucoup. Moi, je crois au roman, c'est-à-dire à une construction. Le roman, c'est vraiment une mise en perspective d'un certain nombre de choses. Et donc, comment construire, comment bâtir un roman et chaque roman, chaque histoire, en tout cas pour ce qui me concerne, que j'ai imaginé, ont demandé toutes les histoires ont demandé des constructions différentes. Et là, ce qui m'est apparu dès le départ, c'était la multiplicité des voix. Ça, c'était absolument ça. Je voulais mettre en scène ce cabinet. Et puis, je me suis interrogée beaucoup, beaucoup, j'ai mis longtemps avant de me mettre à l'écrire, sur la manière de faire émerger la vérité.
Oui.
Il fallait que ça émerge de manière logique et avec des lectures possibles différentes et avec un dernier mot. Oui, un dernier mot. Mais je voulais surtout qu'il y ait cette progression et que ça soit distillé dans le récit, qu'il n'y ait pas de coup de théâtre, qu'il y ait... Je voulais qu'il y ait une forme de, comment dire, d'harmonie dans la catastrophe, parce que c'est quand même une histoire assez rude.
Certes.
Et qu'on la découvre comme des gens qui sont penchés sur cette histoire et qui vont en voir des petits morceaux au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il y ait une, on va dire, révélation, même si le terme ne me plaît pas beaucoup. Mais voilà, j'avais vraiment envie qu'il y ait cette manière douce d'avancer dans quelque chose qui ne l'est pas, tout.
Certes, ça c'est sûr que ça n'est pas vraiment doux, mais je comprends tout à fait pourquoi le terme de révélation ne vous convient pas, parce que en réalité, quand on lit le roman, la vérité apparaît par petites touches, et finalement, la entre guillemets révélation finale, c'est un petit peu comme la touche finale, mais
oui.
on sait, alors on peut pas dire qu'on sache déjà tout, mais disons qu'on en sait déjà beaucoup, on cerne de plus en plus, c'est un petit peu comme une spirale, et tout d'un coup on arrive au centre du labyrinthe, mais on se rapproche à chaque fois un peu plus, si je puis dire, et c'est vrai que ce n'est pas une révélation du type voilà, on n'avait rien compris et tout d'un coup, paf, le monde se recompose de manière complètement différente. C'est pas du tout ce type de révélation, c'est plutôt le point final d'une quête, finalement, quelque
part. Exactement, mais vous le dites merveilleusement. Enfin, je suis très touchée par votre lecture, parce que c'est exactement ce que j'ai voulu faire, c'est exactement ça. C'est-à-dire aller pas à pas et puis construire une vérité à travers des regards qui se croisent et la construire doucement parce que cette vérité, elle a été enfouie pendant des années et des années qu'on lève pas le voile comme ça, on dévoile pas une image, une scène affreuse. On la découvre peu à peu. D'abord parce qu'on n'a pas envie de la voir. Enfin, moi, je n'ai pas envie de la voir d'un seul coup. Je n'ai pas envie de la voir. J'ai envie de l'approcher. Et je crois que, l'approche, c'est l'écriture, quoi.
Tout à fait. Et justement, vous écrivez une langue faussement simple avec des verbes directs, du présent. Est-ce que c'est justement pour mieux faire ressortir le caractère brut, voire brutal, du fond du sujet?
Oui, bien sûr. Et écrire au présent, c'est pas simple. Moi, j'ai toujours écrit au passé, pratiquement toujours. Et dans ce roman-là, dans ce projet de roman-là, il me semblait que il fallait que ce soit le présent. On allait saisir à travers le présent, à travers la banalité du présent, je veux dire, mm-hmm. cette banalité un peu triste du cabinet, enfin en tout cas, parce que je voulais aussi qu'il y ait une place importante pour ces gens qui travaillent au chevet des malades, qui les accompagnent, qui sont souvent la seule personne qu'ils rencontrent de la journée, qui sont là, qui ont une place très au-dessus et très en deçà, en tout cas, de celle qui leur est normalement conférée par la sécurité sociale, disons. Hein.
Oui.
Donc, je voulais donc que les choses soient là, dans le présent, dans le ici et maintenant, et que c'est... D'une certaine manière, je voulais une douceur de la narration dans les étapes et quelque chose de la crudité du présent. Et cette crudité du présent, elle m'était absolument, absolument nécessaire pour pouvoir faire justement ce dévoilement et essayer d'embrasser autre chose qu'une l'histoire de cette femme, mais à travers tous les regards croisés, embrasser aussi une condition qui est celle des infirmiers à domicile.
Et effectivement, on le sent bien, hein, le quotidien des infirmiers à domicile est très restitué de manière dans ces petits détails vrais, dans ces complexités, ces subtilités aussi. Et c'est vrai que le présent rend justement les choses encore plus à la fois banales et brutales quelque part.
C'était ça le but en tout cas, vraiment.
Mais ça
fonctionne, c'est drôle d'écrire au présent, parce que je vous dis que je crois que j'ai toujours écrit au passé et je me suis obligée, il fallait s'y tenir. C'est pas simple d'écrire au présent. Bon, quand on raconte sa propre histoire, peut-être, mais quand on veut raconter quelque chose qui a quand même une place dans le temps, il faut tenir le présent sur la temporalité. J'avais lu quelque part des interviews d'écrivains qui disaient que le présent était pour eux l'écriture la plus difficile. Je confirme.
Oui, c'est pas la plus naturelle quand on veut raconter une histoire.
Exactement. Je me souviens, c'est Gérard Mordillat qui avait expliqué ça pour un roman. Il me dit, mais vous vous rendez pas compte ce que c'était dur d'écrire au présent. Bon, sur le moment, je me suis dit oui, sûrement. Mais là, je peux dire oui, il avait raison.
En tout cas, ça fonctionne. Ça fonctionne et c'était sans doute le meilleur temps pour décrire ce que vous vouliez écrire.
Nous allons faire une petite pause musicale avec Les Passantes de Georges Brassens.
Je veux dédier ce poème à toutes les femmes qu'on aime pendant quelques instants secrets, à celles qu'on connaît à peine, qu'un destin différent entraîne et qu'on ne retrouve jamais, à celles qu'on voit apparaître une seconde à sa fenêtre et qui preste s'évanouit, mais dont la svelte silhouette est si gracieuse et fluette qu'on en demeure épanoui. À la compagne de voyage dont les yeux charmant paysage font paraître court le chemin, qu'on est seul peut-être à comprendre et qu'on laisse pourtant descendre sans avoir effleuré la main. À celles qui sont déjà prises et qui vivant des heures grises près d'un être trop différent, trahison, inutile folie, laissez voir la mélancolie d'un avenir désespérant. Chères images aperçues, espérance d'un jour déçu, vous serez dans l'oubli demain. Pour peu que le bonheur survienne, il est rare qu'on se souvienne des épisodes du chemin. Mais si l'on a manqué sa vie, on songe avec un peu d'envie à tous ces bonheurs entrevus, aux baisers qu'on n'osa pas prendre, aux cœurs qui doivent vous attendre, aux yeux qu'on n'a jamais revus. Alors, au soir de lassitude, tout en peuplant sa solitude, des fantômes du souvenir, on pleure les lèvres absentes de toutes ces belles passantes que l'on n'a pas su retenir.
C'était Les Passantes de Georges Brassens. Vous êtes bien sur Bac FM dans Les Voix du Livre et nous sommes avec Michel Gazier.
Comment est-ce que vous avez décidé d'écrire ce texte et pourquoi maintenant ?
Alors, y a deux choses. La première, c'est que j'avais envie de rendre compte de ce travail infirmier. Il s'avère que dans ma vie, y a beaucoup d'infirmiers qui passent encore et qui sont passés. Que je me suis, je crois que quand on doit subir quelque chose, si on ne s'y intéresse pas, on est complètement écrasé, voire anéanti par cette obligation tous les jours d'avoir chez soi quelqu'un qui vient faire des soins à la personne que vous aimez. C'est extrêmement difficile. Donc, s'y intéresser, c'est s'intéresser bien sûr au travail et s'intéresser aussi aux gens qui le pratiquent. Oui. Donc là, ça devient autre chose. Ça le transcende, ça le transforme. Et je me suis dit que j'avais envie de les mettre en scène, de les raconter, parce que finalement il n'y a aucune voix qui en parle. On a parlé pas mal en période de Covid, mais c'était après que oui. J'avais déjà rendu mon texte, le commencement de l'épidémie. Donc on a parlé des infirmiers à l'hôpital, mais personne n'avait parlé, je crois, de ce travail. Ce travail qui est à la fois entre le travail de soins, mais aussi le travail, comment dire, assistant social, oui. Assistant de vie, assistant de tout. Hein,
oui, c'est beaucoup plus que des soins infirmiers, bien sûr.
Exactement. Donc, il y avait ça. Et puis, le fait que ces gens, parce qu'en parlant avec eux, avec elles, je me rends compte, ils racontent des choses des autres. On ne sait pas qui c'est, mais ils parlent d'autres patients. Forcément. Oui. Et comme ils doivent parler des patients qu'ils voient chez moi, de la même manière. Donc, je me suis dit qu'on pouvait, à travers leurs paroles, entendre la vie de gens, la vie ordinaire, parce qu'ils rentrent chez vous. C'est pas comme à l'hôpital où on va, tout le monde est en lieu neutre, enfin, en quelque sorte. C'est-à-dire que le patient n'est pas chez lui, l'infirmier n'est pas chez lui.
Oui.
Mais quand c'est un infirmier à domicile, il est chez vous. Il est dans votre intimité. Et donc, il est un peu comme le romancier qui était omniscient du 19e siècle.
Ah oui.
Il rentre chez les gens, ou le détective privé, dans les deux figures que j'avais. Donc, essayer à travers ce regard de ces femmes, là, j'ai choisi des femmes qui rentrent chez vous, mm-hmm. et de d'élucider une histoire. Et il s'avère que c'est une histoire vraie, hein, celle que je raconte. Mm-hmm. C'est une histoire dont je n'avais jamais parlé et qui m'avait beaucoup bouleversée quand j'étais jeune. On me l'a racontée. C'est quelqu'un à qui cette histoire est arrivée, pas ce qu'elle est devenue, peu importe ce qu'elle est devenue, je n'en sais rien. J'ai imaginé ce qu'elle pouvait devenir et comment à travers elle on pouvait revenir à l'histoire, mais le drame est un drame que je ne savais pas comment aborder et dont j'avais besoin d'une certaine manière de me débarrasser. Voilà.
Oui, effectivement. Ben, c'est vrai que c'est une histoire qui est quand même assez lourde,
oui.
On va dire. Et mais quel lien justement entretient, selon vous, la fiction avec le réel dans votre inspiration d'écrivaine? C'est habituel pour vous de choisir des histoires qui vous ont marqué, ou bien est-ce que c'est plutôt quelque chose d'assez rare?
En fait, non. En fait, c'est-à-dire que le réel est important pour moi d'un seul point de vue véritablement, qui est le point de vue de la géographie. C'est-à-dire que pour moi, ce sont les lieux. S'ils ne sont pas réels, si je ne les connais pas, je ne peux pas écrire. C'est ça.
Ah oui.
Donc tous les lieux de mes romans sont des lieux où j'ai vécu, que je connais, des lieux qui m'ont parlé. C'était Michel Tournier qui disait il y a des écrivains historiens et des écrivains géographes. Lui se définissait comme géographe et je me définis comme écrivain géographe. C'est vrai que la géographie des lieux m'apporte les histoires. Il s'avère que cette histoire m'avait troublée, mais que si les lieux dans lesquels elle s'était déroulée m'avaient été étrangers, cette histoire était lointaine, elle n'est pas proche de moi, mais elle m'a troublée quand on me l'a racontée. Donc, en parler, en rendre compte, c'était aussi rendre compte d'une certaine géographie, cette Catalogne,
oui.
dont je parle, où s'écrit, où s'inscrit cette histoire. Et en fait, finalement, je crois que c'est elle, cette géographie qui a fait naître et émerger. Et puis Montpellier, où j'ai vécu, hein, j'y ai fait toutes mes études et j'y ai vécu pendant 7 ans. Et j'y retourne parce que j'y ai de la famille. Donc voilà, ces deux lieux qui sont des lieux de vie ont été pour moi effectivement la source du roman plus que toute autre chose.
Oui, donc vraiment écrivaine géographe. Là, ouais. Les lieux vous inspirent.
Oui, les lieux sont pleins de fantômes.
C'est une belle phrase pour définir l'inspiration de l'écrivain géographe. Il y a aussi une autre inspiration chez vous, j'ai l'impression, c'est la thématique de la famille, les
oui.
relations parents-enfants qui
oui.
jouent un rôle central dans plusieurs de vos écrits. Et ben, je pense justement au Nom du Père.
Oui,
bien sûr. Oui, un livre illustré par Juliette Lemontet, donc, qui oui. est publié aux éditions du Chemin de Fer, qui fait 72 pages. C'est un texte relativement bref et dans lequel une jeune femme grandit avec la phrase de sa mère « tu n'as pas de père
oui. ».
Donc là encore, un secret est enfoui qui va bientôt émerger. Pour quelle raison cette thématique familiale vous intéresse-t-elle?
Parce que peut-être, vous savez, moi je suis d'origine espagnole, je suis née en France, mon père est né en France, ma mère non. Mais quand on est comme ça d'une origine de l'autre côté, dont les racines sont de l'autre côté de la frontière, il y a des silences qui sont des silences absolument épouvantables, qui sont des silences de famille. On a laissé des histoires, on a laissé des vies, on a laissé des familles de l'autre côté. Et même si la famille est construite, composée, moi j'ai eu un père, une mère, un frère, j'appartiens à une famille, etc. Vraiment qui a existé. Je veux dire, je suis pas une orpheline. Je ne suis. Mais j'ai toujours pensé que de l'autre côté de la frontière, c'était écrit des histoires que je ne saurais jamais, ou en tout cas des blancs.
Mmh.
Je vais donner un exemple. Par exemple, je savais que ma grand-mère avait eu 6 enfants. Moi, j'en ai connu 3. Ma mère, ma tante et mon oncle. Les 3 autres, bon, on disait, il y a une qui est morte à l'âge de 7 ans en Espagne. Elle s'appelait Suzanne. Bon, voilà. Et puis, il y avait les jumelles. Alors, quel âge sont mortes les jumelles? j'en sais rien. Comment s'appelaient les jumelles? Elles n'ont jamais eu d'autre nom que les jumelles. Pourquoi? Voilà, ben, ça commence là, les oui. secrets de famille et les histoires de famille. Alors, j'ai pas encore creusé ce côté-là, je n'ai jamais écrit sur ces jumelles, mais je veux dire que l'envie d'aller voir dans les secrets de famille, d'aller les explorer, il s'avère que pour ce qui concerne le nom du père, j'ai une amie qui a appris le jour de la mort de son père, qui était son père. Et je pense que ça a été un bouleversement terrible pour elle, et donc elle ne l'a jamais rencontré, elle m'a raconté ça il y a très longtemps. Et là, tout d'un coup, c'est revenu pour moi, peut-être parce que mon père est mort il n'y a pas si longtemps, enfin, des choses, je ne sais pas qu'est-ce qui a fait remonter ce souvenir, mais je me suis dit comment on se construit sans père, puisqu'elle, elle n'avait pas de père, on lui avait dit qu'elle n'avait pas de père, et que de toute façon, oui. L'homme qui était mort, si elle voulait savoir qui était, quel était son nom, il fallait qu'elle aille regarder dans le monde aux avis de décès. Sans qu'on lui dise lequel c'était.
Ah oui.
Donc voilà. Et c'est de là que je suis partie.
Ah oui, donc vraiment les blancs, comme vous dites, les blancs de l'histoire, des histoires familiales.
On ne peut écrire que dans les blancs. Le reste, c'est déjà écrit, on ne voit plus l'écriture.
Oui, c'est sûr. Alors justement, quelle est votre actualité littéraire, votre prochaine actualité littéraire?
Écoutez, mes amis, enfin, pour l'instant, je n'écris pas de roman. J'ai besoin d'un peu de respiration, oui. Voilà. Mais j'ai envie de raconter un peu l'envers de tous les entretiens, de toutes les rencontres que j'ai faites pendant 25 ans de critique littéraire. J'ai rencontré beaucoup d'écrivains. Bon, il y en a, je les ai rencontrés, j'ai fait des articles, point barre. Et puis, il y en a avec lesquels il y a quelque chose, voilà, qui s'est dit, qui s'est passé, qui est resté, et qui n'a rien à voir, ou presque, avec l'interview. Et donc, j'ai commencé comme ça une petite série de portraits, alors ça peut être des portraits très courts, ça peut être des portraits plus longs, ça peut être, voilà, j'en ai fait quelques-uns. Tous les écrivains dont je parle sont morts. Je trouve que c'est plus facile, d'en parler quand même si la relation a été merveilleuse, J'ai commencé il y a longtemps avec un Nathalie Sarraute que m'avait commandé Jean Haut pour une collection qu'il avait et qui a disparu, et donc j'ai écrit ce Nathalie Sarraute, et Jean m'avait dit il faut que tu continues parce que vraiment c'est une autre manière de voir les écrivains, et puis c'est bon. Alors je me fais tirer l'oreille parce que je suis obligée de dire je, que je n'aime pas dire je, voilà. Donc autour de moi tout le monde me dit mais vas-y, et j'ai profité un peu de ce reconfinement pour reprendre le fil de l'écriture, et donc je suis dans mes petits portraits d'écrivains, voilà, c'est Julien Grid, c'est Claude Simon, c'est Anthony Burgess, c'est François Sagan, c'est Ernesto Sabato, Patricia Smith, etc., etc.
Vous nous mettez l'eau à la bouche, ça risque d'être tout à fait passionnant. Donc je vais me joindre au concert des voix qui vous suggèrent de persévérer. Parce que nous avons tous très envie de savoir justement l'envers du décor. Ça va prendre sans doute un petit peu de temps, parce que c'est vrai que c'est pas évident de faire ce travail.
Non, c'est pas évident. Enfin, pour moi qui suis assez pudique, être obligée d'une certaine manière, là, je ne peux pas échapper au fait de, si ce n'est de me mettre en scène moi, mais de les mettre en scène. Si je les mets en scène, je suis obligée d'être dans la scène, voilà.
Bien sûr. Eh bien, merci beaucoup, Michel Gazier, d'avoir été avec nous pour partager ce moment et nous avoir parlé de ces prochains portraits qui nous intriguent beaucoup. Je rappelle les titres dont nous avons parlé. Les Passantes, publié donc au Mercure de France, et Le Nom du Père, publié par les éditions du Chemin de Fer. Et j'en profite pour rappeler l'existence de cette magnifique tradition islandaise, le Jólabókaflóð, l'inondation de livres, qui consiste à offrir des montagnes de livres et ensuite à passer toute la nuit du réveillon à les lire en famille.
Mais vous avez parfaitement raison, c'est exactement ce que nous allons faire. Je vous remercie infiniment.
Je vous en prie, tout le plaisir était pour nous. Et je vous souhaite un très joyeux Noël, bien sûr, de belles fêtes de fin d'année et puis un bon jeu à la Boca Flode éventuellement.
Merci infiniment et vous aussi, très bonne fête de fin d'année.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures livresques dans Les Voies du Livre.